Géopolitique.
Sophie Malibaud.
Merci d'être venu nous rejoindre pour ce débat de géopolitique sur la guerre économique. Alors que la France est engagée sur plusieurs fronts dans des opérations militaires extérieures en Afrique et au Moyen-Orient, alors que depuis bientôt un an, un nouveau conflit a éclaté au cœur de l'Europe, sur le sol ukrainien, des affrontements ont également lieu sur le terrain non militaire de l'économie, affrontements d'une certaine violence néanmoins, dont les principales victimes au bout du compte sont les chômeurs. Alors on commence à parler de reprise économique en France, mais la courbe du chômage pour l'instant ne cesse de croître. Dans cette émission, nous allons débattre de l'organisation du commerce mondial, de la guerre que se livrent ces acteurs, des pratiques en cours et des répercussions qu'elles peuvent engendrer dans les relations entre les États. Et puis nous reviendrons bien sûr sur l'évolution de ce phénomène dans le temps. Pour ce faire, je reçois Pascal Gauchon, rédacteur en chef de la revue Conflit, qui a consacré cet hiver un numéro hors série intitulé « Nous sommes en guerre économique », un numéro que vous pouvez retrouver en ligne sur internet à revueconflit.com. Nous recevons également Christian Arbulot, directeur de l'école de guerre économique, directeur associé du cabinet Spin Partners. Son dernier ouvrage, « Sabordage, comment la France détruit sa puissance », paru en 2014 aux éditions François Bourin. Et puis Bernard Quirin, qui enseigne l'intelligence économique, notamment à l'université de Caen. Car vous occupez également, Bernard Quirin, d'autres fonctions dans cette région de Basse-Normandie. Vous travaillez au développement des entreprises privées, vous faites du soutien à l'investissement, activité hautement stratégique. Et alors, pour ouvrir le débat, je me tourne vers vous, Bernard Quirin, car on en parlait en antenne, vous arrivez tout juste de Normandie, et ce sont des raisons historiques et géopolitiques qui expliquent en quelque sorte que vous opériez sur cette portion du territoire français, du moins à partir de là, de cette Basse-Normandie. Vous êtes un exemple vivant de cette logique d'implantation des activités sur un territoire prenant en compte des facteurs géopolitiques.
Oui, la Normandie a un certain nombre d'industries de pointe. C'est une région extrêmement innovante, avec une forte tradition de sous-traitance. En fait, après la guerre de 14, après l'invasion du quart nord-est de la France, il avait été décidé de localiser plutôt à l'ouest les industries les plus sensibles, notamment celles qui travaillent pour la défense. Et en Normandie, beaucoup d'industries dans le bassin de Cherbourg travaillent pour la défense, mais ailleurs aussi. Et puis, cette tradition de sous-traitance dans la mécanique, dans l'électronique et dans d'autres industries, fait que cette région aujourd'hui est extrêmement innovante. L'investissement a fortement repris depuis le mois de novembre. Et donc demain ou après-demain, ça se traduira en emploi. Ça ne se traduit pas en emploi aujourd'hui. Cette innovation, ces industries de pointe attirent évidemment les convoitises de beaucoup d'acteurs. La guerre économique fait rage. Tous les mois, nous avons 2-3 cas, dont un majeur à peu près tous les mois et demi, sur des technologies sensibles que d'autres, pilotées ou non, souvent oui, par des États, cherchent à s'accaparer par différentes manœuvres.
Mmh. Avant qu'on vienne dans le détail et dans le très concret sur ce plan, je voudrais revenir avec vous, Pascal Gauchon, sur ce concept. Vous titrez dans la revue Conflit « Nous sommes en guerre économique », c'est-à-dire que là, on est au présent. Et je voudrais savoir, à quand est-ce que vous faites remonter cette guerre économique? Quand est-ce que ça a commencé?
Alors, on peut avoir deux visions des choses. On peut considérer que la guerre économique, dans la mesure où c'est un moyen pour les États d'accroître leur puissance, a toujours existé comme d'autres formes de conflits. On peut aussi considérer qu'il y a des cycles pendant lesquels cette guerre économique est plus intense et pendant lesquels elle est moins intense. Si on définit la guerre économique comme l'effort des États pour se procurer, et éventuellement priver les autres, des ressources rares de l'économie, de ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement d'une économie, d'une entreprise et d'un pays. Eh bien, on peut dire à ce moment-là qu'il y a des cycles, effectivement, que par exemple, il y a eu un cycle très fort au XVIIe siècle qui a vu l'émergence du mercantilisme, d'une certaine façon, est un peu l'ancêtre emblématique de tout ce qui est guerre économique. Et on peut dire qu'il y a un cycle actuellement qui a commencé dans les années 1990.
Vous le faites coïncider avec la fin de la guerre froide.
Oui, et pour plusieurs raisons. C'est d'abord la fin de la guerre froide qui fait que la guerre, l'affrontement entre États va moins passer par un affrontement géopolitique, quoique ça dure bien sûr, mais va passer plus peut-être par l'économie. Mais il y a aussi à ce moment-là le phénomène des émergents. Et les émergents qui cherchent, eux, de leur côté, à tout accaparer, regardez la Chine, attrape tout, absorbe tout. Et je pense que sans que nous demandions à Bernard Quérin des révélations exceptionnelles, quand on évoque des entreprises qui peut-être peuvent être intéressées par certains secrets bas normands, en partie dans des traditions de Basse-Normandie très connues, hein, en l'occurrence, eh bien, je pense que la Chine n'est pas toujours en dehors de ce genre de choses. Donc voilà, les émergents absorbent tout. Donc, ces ressources qui n'étaient pas autant rares deviennent rares parce que les émergents en ont besoin. Il y a par ailleurs le phénomène, et qui est lié à cela, de la hausse du prix des matières premières, qui peut-être est en train de se résorber aujourd'hui. En tout cas, qui, jusqu'à il y a un an, était un phénomène majeur, qui faisait aussi que le pétrole, les sources d'énergie. Mais le plus important peut-être, c'est pas le pétrole, c'est pas les sources d'énergie. Et ça, ce n'est pas prêt de se terminer, c'est la technologie, comme le signalait très justement Bernard Quérin. Et ça, la volonté des États d'aider leurs entreprises à acquérir les technologies les plus modernes, les plus de pointe possible, ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Ce qui fait que nous sommes bien en guerre économique et qu'elle a des chances de durée.
Bon alors, je vous laisse la parole un peu, Bernard Quérin, oui. Parce que vous avez des exemples. Vous parliez des secteurs en Basse-Normandie. Vous voulez parler de la laiterie, par exemple?
Je rebondis effectivement sur ce que dit Pascal. Bon, c'est un secret pour personne. Les technologies d'ultrafiltration du lait sont convoitées par beaucoup depuis, notamment par les Chinois, depuis à peu près 2006. Mmh. La moindre petite laiterie qui met en œuvre ces technologies membranaires intéresse aujourd'hui nos amis chinois. Les affaires Plissorol ou ThyssenKrupp, qui sont très différentes l'une de l'autre.
L'une concerne
le numéro 2 européen du contreplaqué à Lisieux, Plissorol, qui a été mis par terre, vraiment, à la suite d'une offensive où il n'y a eu que des victimes. On savait qu'il n'y aurait que des perdants. ThyssenKrupp, la volonté de prendre le contrôle de 3 brevets qui permettent de contrôler les arceaux, qui permettent aux voitures d'encaisser les chocs lors d'un crash test pour ensuite exporter des véhicules plus conformes aux règles européennes. Eh bien, le petit village du Theil-sur-Vienne, 800 habitants, une usine plus grande que le village, ça intéressait les Chinois, c'est un enjeu géopolitique. Mmh. Voilà,
personne... Alors là, on est vraiment dans l'actualité, parce que vous parlez de la Chine, mais si on revient sur l'aspect historique, il y a eu quand même aussi, dans ce début des années 90, c'était plutôt du Japon dont on parlait à l'époque, et on était dans un contexte de guerre froide, où finalement, de fin de guerre froide, où finalement, les États-Unis avaient peut-être moins besoin du Japon qu'il n'en avait besoin auparavant vis-à-vis de l'URSS. Et donc, ça a eu un impact, ça, dans la relation. Et ça a réorienté la guerre économique. Je me tourne vers vous, Christian Arbulo.
Oui, je crois. Le Japon, en tout cas pour ce qui est de la sensibilisation en France, nous a servi un peu de prétexte. C'était plus simple de parler du Japon que d'autres pays, à la limite. Et en plus, ça n'a pas été qu'un prétexte. C'est-à-dire que les États-Unis, après la chute du mur, ont décidé de mettre fin à l'agressivité économique de la deuxième puissance mondiale de l'époque.
Voilà, c'est une puissance avec beaucoup de visibilité.
Absolument. Et quand je dis les États-Unis ont décidé de mettre fin, il y a un exemple qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui me semblait très intéressant, c'est que on avait côté occidental laissé les Japonais pénétrer les marchés américains et européens pour éviter que le Japon s'affaiblisse économiquement et bascule de l'autre côté, du côté du bloc de l'Est. Et en faisant ça, le Japon s'était senti pousser les ailes et n'avait plus tellement de mesure de son agressivité commerciale. Et lorsqu'il a voulu imposer au monde ce qu'on a appelé à l'époque le techno-globalisme, c'est-à-dire une nouvelle doctrine pour aider les pays émergents à partager toutes les innovations en matière de recherche-développement de manière à faire glisser la compétition vers l'aval, c'est-à-dire lorsque les pays auraient eu accès à des connaissances scientifiques, il a proposé de créer des bases de connaissances et d'être à l'origine de cette redistribution des cartes de l'information scientifique et technique à travers le monde. Il est évident que pour les États-Unis, c'était pas possible. C'était pas possible. Et les États-Unis ont sabordé cette stratégie du Japon assez habilement. Et moi, j'en avais été témoin lorsque Edith Cresson était Premier ministre, puisque je lui avais rédigé une note à l'époque. Et j'avais bien compris qu'il y avait un dialogue entre les États-Unis et l'Europe, et notamment la France, pour que le Japon ne réussisse pas à s'imposer comme un pays qui distribuait l'information utile, donc avec la légitimité humaniste qui accompagnait ce mouvement-là, et qu'en fait, il prenait une position prédominante en termes de ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, et ça a été stoppé. Alors évidemment, ça n'a pas été raconté dans les médias, mais dans les coulisses du pouvoir, c'est bien une action qui a eu lieu.
C'est une action qui avait lieu et qui se ressentait de façon très concrète sur place, parce qu'il y avait tout un système en place, qui était un système d'entente entre les chefs, les entreprises, le pouvoir politique et les fonctionnaires qui fonctionnaient main dans la main, à coups de gros cadeaux de renvoi d'ascenseur. Tout ça était très verrouillé et ça faisait du Japon un endroit, une espèce de forteresse imprenable également. Et quelles étaient les armes à ce moment-là utilisées, puisqu'on est dans une terminologie de guerre, quelles ont été les armes utilisées pour empêcher le Japon de poursuivre dans cette voie?
Ben d'abord, il y a des armes basiques. C'était que le Japon s'installait, par exemple, dans le cadre de cette stratégie, notamment en Alsace, avait créé un concept sur une sorte de participation du monde académique, universitaire français qu'il rétribuait pour des conférences, notamment au Japon. Et là, des agents de l'État allaient auprès de ces personnes pour leur faire part quand même de leurs appréhensions dans les transmissions de savoir. Et ça n'a pas toujours été facile, parce que c'est compliqué. Il n'y a pas de méthode coercitive pour empêcher un universitaire d'aller faire une conférence au Japon et de transmettre ses connaissances. Donc, très très vite, je pense que les autorités se sont rendues compte que c'était des mesures qu'il fallait appliquer, mais qui n'étaient pas opérationnelles. Donc, il fallait monter en, je dirais, un certain nombre de crans plus haut pour faire stopper l'agressivité économique en question. Et je pense que dans cette fameuse crise financière qui a touché l'Asie, mais en particulier le Japon, il n'y a pas eu que des phénomènes, disons, locaux du type explosion d'une bulle immobilière, etc. Il y a eu réellement une action très intelligemment menée par le monde occidental pour piéger le Japon et pour le déstabiliser.
Y compris sur le plan monétaire.
Absolument. Pascal Gauchon veut peut-être...
Oui, d'abord, effectivement, comme vous venez de le dire, faut pas oublier la monnaie. Hein, si on cherche les trois fondements principaux de la puissance américaine, c'est le dollar, le dollar, le dollar. Et donc la dépréciation du dollar et l'endaka qui a été de pair est un élément qui
la hausse du yen,
voilà, a été un élément, un moyen de pression. Et puis il y a une chose qu'il faut pas oublier, il y a aussi le modèle libéral américain. La libéralisation du système bancaire auquel les Américains ont poussé au Japon de façon très active à partir de 1979, cette libéralisation du système bancaire a fragilisé le système bancaire japonais, et au moment où, alors il faut le dire, bien sûr les Japonais sont quand même responsables un peu de leur sort, où des mesures assez maladroites sont prises par les autorités monétaires japonaises, la remontée trop forte, trop rapide des taux d'intérêt, un système bancaire fragilisé va très mal vivre cela, et c'est le point de départ d'une crise japonaise, qui, de toute façon, ils ne sont pas sortis d'une déflation japonaise qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, ils ont eu des armes. Mais
Il y a cette déflation, il y a toutes ces fragilités de l'économie japonaise aujourd'hui, mais en même temps, ça a permis de recadrer certaines choses, parce qu'il y avait ces projets pharaoniques, il y avait des tas d'abus liés à ce système de verrouillage avec des budgets, des routes qui ne menaient nulle part, enfin des banques qui faisaient des crédits.
C'est ce que disent les Américains. C'était pour le bien des Japonais qu'il fallait absolument qu'ils se réforment, qu'ils se libéralisent.
Ça vous fait tous
voilà.
Rire.
Non, pas du tout. Non, bien évidemment
c'est,
que
c'est pour rappeler
le
qu'en
système
fait,
japonais
vous
est verrouillé.
Que ça
le triangle de fer auquel vous avez évoqué a bien des inconvénients, et en particulier introduit toute une série de rentes dans l'économie, bon, et de corruption. Bon, tout cela est bien connu. Mais enfin, disons que les Américains n'ont peut-être pas fait cela obligatoirement et n'ont pas poussé à la libéralisation uniquement pour le bien des Japonais. Voilà, il ne faut pas désespérer de la nature humaine.
Vous écoutez Géopolitique.
Christian Arbulo, vous avez dans vos analyses aussi ce thème récurrent du déni. Et on est dans le déni de la guerre économique, qui n'a pas assez de prise de conscience face à ce phénomène.
Oui, je crois que je me souviens de la formule d'Alain Juillet quand il avait pris son poste au responsable à l'intelligence économique, qu'il avait rencontré des représentants du ministère de l'économie et finances à cette époque.
En France, hein,
en France,
est dans le
bien
cas
sûr.
Français.
Et ouais. On lui avait dit, vous savez, il y a 2-3 dossiers comme ça par an. Cette remarque-là, c'est vraiment l'expression même du déni, c'est-à-dire qu'il y a un problème déjà de perception de ce qu'est la guerre économique au niveau de la classe dirigeante française, quelle que soit sa coloration politique d'ailleurs, et surtout dans la haute administration, parce que ça c'est pas négligeable de le souligner. Et puis ensuite, et ça je pense qu'on en a longuement parlé avec Pascal et un certain nombre d'autres personnes, dans le monde académique, il y a un problème pour étudier la guerre économique, c'est que ceux qui sont à l'offensive ne vont bien entendu pas écrire et le revendiquer. Quand les États-Unis conçoivent et officialisent une doctrine de sécurité économique, c'est en...
Ça, c'était quand ?
C'était premier mandat Clinton. C'est en précisant bien que c'est parce qu'ils sont victimes d'une concurrence déloyale dans ces fameux pays émergents dont parlait Pascal Gauchon, et que pour rétablir un peu les termes de la concurrence, il fallait se doter d'une doctrine de sécurité économique. Il n'allait pas dire nous avons décidé, par exemple, de devenir le pays qui va contrôler le monde immatériel tel qu'il existe aujourd'hui et qui fera tout pour empêcher les autres d'y exister.
Soyons justes. Ils ont quand même une certaine franchise parfois. Les déclarations du 15 février dernier de Barack Obama disant, je le cite, « Nous avons créé Internet et nous l'avons fait de façon à ce que les Européens ne puissent jamais nous le contester », c'est quand même d'une clarté assez nette.
Bernard Quirin, est-ce que vous diriez qu'on ne réalise toujours pas ce qui nous arrive, que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un taux de chômage qui ne baisse pas? Est-ce que vous, dans vos activités, vous ne sentez pas une prise de conscience?
Les causes du chômage, bon, elles sont nombreuses. Je rebondis sur votre question et sur ce qui vient d'être dit par Christian Arbulo. Le déni est général.
Vous voulez dire général en France, mais il y a des pays où
nous avons les plus. Alors que pourtant, il y a effectivement une franchise. Un affichage, il n'y a pas besoin de chercher loin pour voir quelles sont les intentions américaines, notamment. Ils ont une certaine franchise, mais les Chinois aussi. Les Chinois expliquent ce qu'ils vont faire et font ce qu'ils disent.
Par exemple, dans le domaine de l'environnement, des technologies de l'environnement.
Tout à fait, dans le domaine des technologies de l'environnement, ils veulent être les équipementiers de la croissance verte. Ils s'y préparent et ils se mettent en ordre de bataille de façon très très visible. Les Américains sur les technologies de l'information aussi. Le colloque du 6 juin dernier au mémorial de Caen sur le thème de la liberté n'était pas neutre au moment où se négocie le traité transatlantique. La FDA américaine arrête de bloquer les importations de mimolettes. Il faudrait que je vous parle de la guerre de la mimolette.
La FDA, il faut...
La FDA, donc l'Administration fédérale de la sécurité sanitaire des aliments et du médicament aux États-Unis, le 6 juin cesse le blocage de la guerre de la mimolette, qui a été perdue par les Américains, je pourrais y revenir. Mais organise un colloque sur le thème de la liberté qui explique qu'en gros, la liberté, c'est aussi le libre-échange. Bon, de la part d'une puissance particulièrement mercantiliste, c'est tout à fait amusant, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même un double langage. Dans la pratique quotidienne, nous voyons bien le décalage avec l'affichage.
Mais il y a moins de déni, c'est vrai, parce que s'il y a moins de déni, c'est parce qu'il y a peut-être tellement de pressions et de contradictions qui sont en train de rebondir au-delà de la compétition, donc dans les logiques de guerre économique. Regardez ce qu'a dit Obama, mais c'est la première fois que j'entendais un homme comme Stéphane Richard, PDG d'un groupe du CAC 40, faire une déclaration aussi virulente contre un président des États-Unis.
Oui, contre l'impérialisme économique américain et le colonialisme.
C'est quand même pas anodin. Mais en revanche, il y a l'autre élément, et ça, on n'en parle pas assez non plus, c'est ce que vous venez de dire, monsieur Quirin, c'est le double langage. C'est-à-dire que une des grandes forces des puissances qui sont à la manœuvre et qui sont dans des logiques de conquête, c'est qu'elles manient avec un art excellent cette pratique du double langage.
Tout à fait.
Et on y reviendra un petit peu plus en détail dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'instant, dites-nous, qu'est-ce que ça change finalement d'affirmer l'existence de ce concept de guerre économique, juste en deux mots?
C'est très important. Nous, nous cherchons à mobiliser les entreprises, à faire comprendre à la plus petite des PME qu'à partir du moment où elle est ouverte à la compétition mondiale, eh bien, le monde est un monde de risques. Les risques, il ne faut pas les refuser, il faut les mesurer. Pour les mesurer, il faut les connaître et il faut les assumer. Mmh. Il faut donc
mobiliser. Voilà pourquoi on en
mobiliser.
Parle aujourd'hui. Alors,
bien sûr.
Donc, je vous interromps tout de suite parce que nous faisons une petite pause pour une page d'actualité et nous reprenons ce débat sur la guerre économique avec Pascal Gauchon, Christian Arbulo et Bernard Quirin.
Géopolitique. Sophie Malibaud.
Nous sommes en guerre économique. C'est du moins le point de vue de nos trois invités qui se battent sur ce front. Pascal Gauchon, rédacteur en chef de la revue Conflit, qui vient de sortir donc un numéro hors série sur cette question. Bernard Quirin, qui travaille au développement des entreprises et enseigne l'intelligence économique à l'université de Caen, notamment. Et puis Christian Arbulo, directeur de l'école de guerre économique, directeur associé du cabinet Spin Partners. Son dernier ouvrage, Sabordage, comment la France détruit sa puissance. Un ouvrage paru en 2014 aux éditions François Bourin. Je voudrais revenir avec vous, Christian Arbulo, sur la sévérité du titre de votre livre. Vous êtes très pessimiste. La France détruit sa puissance. C'est dans ces termes que vous posez les choses. C'est qu'on n'a vraiment rien compris à ce qui se passe au terme de la guerre économique.
Alors, c'est un titre volontairement provocateur, mais qui a plutôt tendance à dire « passons à l'abordage que s'abordons de bateau », si vous voulez. Et le dernier tiers du livre est surtout consacré à ça. Mais en fait, j'ai écrit cet ouvrage pour effectivement concevoir un début de grille de lecture sur la question de la puissance en France et surtout la perception de ce monde-là. On a beaucoup de problèmes dans un pays comme le nôtre, et ça s'explique, hein, c'est pas du masochisme. On a beaucoup de problèmes à rendre naturelle une démarche stratégique qui vise à conquérir, qui vise à enrichir, qui vise donc à améliorer les conditions de vie d'un pays, puisque un pays, pour progresser, il faut bien qu'il s'enrichisse. Et pour s'enrichir, il est obligé de gagner, par exemple, des parts de marché.
Sauf qu'il y a des antécédents historiques, il y a eu la colonisation. Aujourd'hui, on préfère donc parler d'autre chose que de la conquête des marchés. On va préférer parler d'une relation de commerce d'égal à égal. Je pense aux relations avec les pays d'Afrique, par exemple. On va parler de relations de partenariat et de relations d'égal. Voilà, tout
absolument.
Ce qui va pouvoir
permettre de dire
France-Afrique, c'est fini.
Donc, on a même inventé en section 6, sciences de gestion du Conseil national des universités, un terme extraordinaire qui s'appelle la compétition. C'est-à-dire que derrière ce mot-là, qui est un beau fourre-tout de non-lecture de la stratégie, j'ai envie de dire, on évite effectivement les sujets qui fâchent. Et éviter les sujets qui fâchent, c'est quoi? C'est que, oui, on serait tenté d'apaiser les relations économiques internationales, bien entendu, c'est un vœu auquel tout le monde aspire, mais on n'y arrive pas. Il y a, hélas, des réalités d'affrontement qui sont très fortes, et on parlait d'économie émergente tout à l'heure. Moi, quand je suis sollicité aussi bien au Maroc ou en Algérie, c'est pas simplement pour l'Algérie essayer de compenser une fuite des cerveaux dans le domaine juridique qui les rend faibles dans les négociations internationales sur le plan commercial, mais c'est aussi parce que, quelque part, ils ont une volonté d'être une puissance régionale sur l'Afrique subsaharienne, et ça devient compliqué parce que c'est pas forcément ce que la France souhaite. On est dans des rapports de tension sous-jacents, et vous voyez tout de suite que derrière ça, il y a des enjeux économiques. Il n'y a pas que des enjeux politiques ou des enjeux diplomatiques. Donc c'est difficile, si vous voulez, d'équilibrer ce type de démarche dans une volonté purement pacifique et apaisée des choses. Je crois.
Mais l'affichage de la puissance, dans certains cas, ça peut aussi avoir des désavantages. On parlait de double discours tout à l'heure, parce qu'il y a peut-être avantage, dans certains cas, à dissimuler la volonté de puissance.
Alors ça dépend, parce que si je prends le cas de la France, on a un problème. Nous, c'est que non seulement on n'est pas forcément très doué dans le double langage, mais parfois, on n'ose pas présenter la puissance rayonnante au bon sens du terme. Par exemple, on a, je ne cesse de le dire, mais une position très importante en matière d'économie d'électricité. Là, j'ai vu qu'un homme politique avait émis un vœu stratégique qui est l'électrification du continent africain. Et ça peut être un très grand chantier industriel dans lequel notre industrie peut prospérer, peut créer de l'emploi, etc. Mais c'est un politique qui a dit ça. ce n'est pas le président d'un groupe privé. Attention. Et c'est là où, je pense, on a toujours un problème avec les économistes. C'est que, on parlait de développement tout à l'heure, on parlait de mercantilisme au niveau historique. Ces décisions-là sont souvent liées à des visions politiques où l'économie joue un rôle essentiel, et ce sont souvent les politiques qui sont à l'origine de ces visions, et pas forcément les chefs d'entreprise, et encore moins les économistes d'ailleurs.
On le voit par exemple, Laurent Fabius aussi a mis en exergue cette thématique de la diplomatie d'influence. C'est une thématique vraiment de la guerre économique.
Alors effectivement, à condition qu'elle ne soit pas qu'incantatoire. C'est-à-dire que le problème, c'est que la diplomatie économique, c'est ça veut dire qu'il y a des forces en mouvement, et ça veut dire aussi qu'on ait des fonctionnaires qui comprennent ce que ça veut dire et surtout s'impliquent. Or, le problème français, et ça, monsieur Quirin peut-être pourra mieux en parler que moi, mais c'est que on a une dissociation entre le métier de fonctionnaire, c'est-à-dire qui se vit dans l'hexagone, et le rôle qu'il devrait avoir si on projette la France vers l'extérieur pour justement qu'elle s'enrichisse.
Bernard Quirin.
Je comprends ce que vous dites. D'abord, les fonctionnaires avec lesquels je travaille dans ma région, ce sont des patriotes, tous. Et ils sont engagés et ils sont mobilisés pour aider les entreprises à se développer et pour participer aux deux objectifs que nous avons, c'est-à-dire le développement du PIB de la région et l'intérêt général. Donc ça, c'est important. Vous parlez peut-être plutôt de hauts fonctionnaires, etc. Mais là, on est dans un problème différent, qui est le problème des élites et le problème de l'acceptation du reste du monde par les élites d'un pays qui a été une grande puissance rayonnante à une époque et qui, après la défaite de 40 et après la décolonisation, je mets de côté la parenthèse gaullienne, a peut-être cultivé une certaine forme de repli. Et nous avons effectivement un problème d'acceptation de la compétition mondiale et de capacité à la comprendre et à s'y situer, qui est en train d'évoluer. Je crois que la diplomatie économique et ce qui a été fait ces derniers temps est tout à fait intéressant.
Alors, Pascal Gauchon, pour titrer votre éditorial de ce hors-série sur la guerre économique, vous l'avez intitulé « La paix est un souhait, la guerre est un fait ». Et c'est une citation, c'est pas anodin, de Spengler, Oswald Spengler, un philosophe allemand, qui a fait paraître un ouvrage en 1918, « Le déclin de l'Occident », donc un ouvrage qui a marqué. Est-ce que vous faites un parallèle? Est-ce que, quand vous voyez ce qui se passe au cœur de l'Europe, sur le terrain de l'Ukraine, vous craignez qu'on retombe dans les affres d'une guerre, pour ne pas avoir réussi à se sortir de la guerre économique, on retombe dans les affres d'une guerre aussi terrible qu'il y a eu au XXe siècle.
Alors, deux choses très différentes. D'abord, sur le thème du déclin de l'Occident, il faut admettre la formule d'Occident, qui est un peu compliquée, car je ne voudrais pas quand même que, à la suite de cette émission, on ait l'impression que nous ayons eu une attitude discriminatoire à l'égard des Japonais ou à l'égard des Chinois. Les vrais leaders de la guerre économique aujourd'hui, ce sont les États-Unis d'Amérique.
C'est
il faut le dire quand même très clairement. Donc déclin de l'Occident peut-être, mais tout dépend de ce qu'on appelle l'Occident. Sur ce domaine précis, pas des États-Unis d'Amérique. Et la déclaration que nous citions d'Obama en est encore la preuve. Dans la revue, on a fait une double page, là aussi, qu'on a intitulée de façon provocatrice « Washington, capitale de la guerre économique ». Il y a un plan de Washington et on voit tous les organismes américains qui sont installés dans la ville de Washington et qui servent sur le plan juridique, sur le plan monétaire, sur le plan espionnage, sur le plan tout ce que l'on veut qui serve à cette guerre économique.
Mmh. Bon. Mais pour revenir sur l'Europe, je veux parler de l'Ukraine à présent, parce que c'est quand même déjà un conflit militaire qui a fait plus de 500 morts, 5 000 morts,
oui. On a dépassé
depuis
le chiffre.
Même pas bientôt un an. Et donc, en même temps, il y a une guerre économique qui se joue en parallèle. Oui, vous voulez intervenir, Bernard
Quirin. Regardez la carte, regardez la manière dont le gaz est distribué en Europe à partir de la Russie, et regardez comment, bien avant la guerre actuelle en Ukraine, des stratégies de contournement ont été mises en place pour justement ne pas dépendre du passage davantage par l'Ukraine. Il est évident que les implications sont fortes, mais là on est dans autre chose, je veux dire.
On n'est pas
dans la guerre économique, on est dans l'économie au service de la guerre.
C'est absolument. La guerre économique, c'est encore une fois la guerre menée par les États pour acquérir un certain nombre de ressources pour développer l'économie. Là, on est plutôt dans des motivations économiques éventuelles, peut-être pas les plus importantes, dans un affrontement géopolitique. On a des conséquences économiques, évidemment. On a des enjeux économiques qui ne sont pas d'ailleurs seulement le pétrole et le gaz, qui sont du point de vue de la Russie, les industries d'armement installées en Ukraine, ou les producteurs ukrainiens, d'ailleurs, c'est pas des entreprises russes pour la plupart, mais qui régulièrement vendent à la Russie et qui sont importants pour son armée aujourd'hui. Je pense en particulier aux producteurs d'avions extrêmement connus, Antonov, qui est installé à Kiev. Donc il y a évidemment une dimension économique. Mais l'enjeu, il est de toute autre nature. L'enjeu, c'est un affrontement presque planétaire entre la puissance maritime des États-Unis et l'une des puissances terrestres, la Russie, et de savoir où est-ce que le partage des zones d'influence se fera.
Si à l'origine il y a des causes économiques, est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de sortir d'une crise qui devient une crise militaire avec des morts, des véritables victimes, par le biais de l'économie ? Qui veut répondre à cette question?
Oui, je pense qu'effectivement, là encore, c'est souhaitable. Je ne suis pas certain que pour l'instant, c'est par l'économie qu'on en sortira. Ou alors, vous voulez dire par les sanctions, peut-être.
Plusieurs armes économiques.
Les sanctions à l'égard de la Russie, elles posent un énorme problème. C'est que, évidemment, la Russie en est victime, il n'y a aucun doute. Mais nous en sommes victimes en retour. C'est la différence majeure entre notre guerre froide, si on admet que nous sommes en guerre froide aujourd'hui, et la guerre froide d'autrefois, c'est qu'entre temps, il y a une chose qui s'est passée, la mondialisation. Et donc, toutes les stratégies d'utilisation de l'arme économique contre l'adversaire risquent de se retourner contre nous, et en particulier, c'est le ministre des Affaires étrangères espagnol qui a estimé que le coût pour l'Europe des sanctions appliquées à la Russie était de l'ordre de 25 milliards d'euros à peu près par an. Donc, évidemment, on frappe la Russie. C'est plus cher pour eux d'acheter des pommes maintenant, paraît-il, dans les marchés de Moscou, tout ce que l'on veut. Mais enfin, le problème, c'est que les pommes que produisent les Européens, qu'est-ce qu'on va en faire ?
Ce que vous appelez la guerre économique, parfois, peut rentrer en totale contradiction avec la guerre, la vraie, et avec les relations telles que les États souhaiteraient les avoir entre eux.
Il y a un exemple qui illustre très bien ça. C'est un ouvrage est paru il n'y a pas très longtemps dans le monde anglo-saxon sur la Première Guerre mondiale et qui parlait d'un plan de guerre économique conçu par l'amirauté britannique avant le déclenchement du premier conflit mondial pour affaiblir l'Allemagne. Et qui a saboté ce plan-là ? Ce sont des intérêts privés britanniques qui ne voulaient pas que l'État britannique applique ce plan. Donc vous voyez que c'est pas simple d'étudier ces questions-là, c'est-à-dire que il ne faut pas croire qu'il y a immédiatement un phénomène d'unité nationale qui a lieu partout. Alors il est plus facile à provoquer aux États-Unis, il est plus facile à provoquer en Chine parce que c'est une dictature, mais
autrement dit le patriotisme économique a ses limites.
C'est-à-dire il a ses limites dès lors qu'on essaie de voir quels sont ses aboutissements. Avant l'émission, vous me parliez au téléphone de certains sujets. Moi, je vous en citais un qui me semblait assez éclairant, c'est-à-dire que nous avons réussi à bloquer, par exemple, les Américains en matière sur les questions de prix agricoles. Et là, on a eu une alliance des céréaliers. Et dans le même temps, nos céréaliers s'entretuent et sont incapables de rentrer dans une logique de soft power sur les problèmes d'aide alimentaire, d'exportation de farine, etc. Donc, c'est pas acquis la perception stratégique dans chaque cas de figure. C'est pareil quand je parlais d'incantation. Je pensais à des sujets excessivement précis. Quand je vois un haut fonctionnaire français qui travaille au ministère de l'écologie et des transports maritimes et qui me parle de la capacité d'un pays comme le Danemark à avoir une stratégie mondiale en matière de shipping, donc en matière de transport maritime, il y a là une unité qui se crée entre le politique, l'administratif et le secteur privé. En France, nous sommes complètement paralysés par nos contradictions historiques dans le domaine. On n'arrive pas à faire ça, alors qu'on aurait les capacités de faire ça.
Oui, Bernard Quérin.
La guerre économique et la guerre tout court ont un point commun, c'est la puissance. Par contre, les intérêts peuvent être effectivement totalement divergents. La guerre économique vise la puissance, la guerre vise aussi l'accroissement ou la sauvegarde de la puissance, mais je rejoins tout à fait Christian Arbulot, il peut y avoir des contradictions à un deuxième niveau. Vous parliez de l'Ukraine il y a un moment. Dès le lendemain de l'embargo sur les technologies aéronautiques et spatiales, les manœuvres de contournement avec approche d'un certain nombre de sous-traitants français avaient commencé.
Par les Russes.
Oui.
Bernard Quirin, vous disiez aussi, vous défendez cette approche et cette terminologie de guerre économique, c'est qu'elle peut être, dans certains cas, très violente.
Elle peut être effectivement très très violente. On peut aboutir, on l'a vu sur le numéro 2 européen du contreplaqué à Lisieux, avec des enjeux qui étaient des forêts d'Okoumé au Gabon, notamment, un conflit donc avec des intérêts chinois. On peut arriver jusqu'à la destruction de la société. Dans des affaires de captation de technologies.
Et aussi des vies humaines menacées.
Bon, il y a eu des accidents. Il y a eu des chaudières enflammées au Gabon. Il y a eu aussi des menaces.
Ouais, la guerre économique n'est pas menace.
Ce n'est pas toujours très reluisant. Mais l'aspect principal, ce sont quand même des mouvements de prise de participation de sociétés dans d'autres sociétés, etc. Donc ça a un côté soft, même si au final, lorsque cela aboutit à la destruction d'une société, cela aboutit à des pertes d'emplois. À Lisieux, il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui ont fait des dépressions parce qu'ils ont perdu leur emploi après des années dans cette société. Il y a eu un suicide. Il a fallu mettre en place une cellule d'assistance psychologique. C'est très violent pour ceux qui subissent.
Et alors, sur la façon dont la guerre économique peut faire intrusion dans les négociations, les dialogues entre États, prenons l'exemple de l'Iran. On est dans un processus avec une perspective d'accord sur le nucléaire iranien. Donc l'Iran sortirait de la liste des pays avec lesquels on ne peut pas commercer, etc. Ça a tout de suite un impact au niveau de l'automobile.
Oui. Sur Peugeot.
Oui. J'avais eu un impact avant, mais on est encore une fois dans un cas un peu particulier. Il y a eu un impact avant dans la mesure où les Américains avaient forcé les Français à quitter le marché iranien. Et en particulier, quand General Motors est entré, c'est un des outils importants de la guerre économique américaine. Quand General Motors était entré, avant d'en ressortir, il avait vraiment un aller-retour dans le capital de Peugeot. La contrepartie de cette entrée de General Motors, c'était que Peugeot, du coup, devenait de toute façon soumis à la loi américaine, donc aux embargos américains, et devait immédiatement fermer ses usines en Iran, alors que l'Iran est un marché, en tout cas en termes de volume, pas obligatoirement en termes de profit, mais en termes de volume, un marché très important pour Peugeot. Elle a dû quitter l'Iran du jour au lendemain. Donc évidemment que les sanctions économiques sont un élément, alors là c'est autre chose, de la géopolitique en général, et peuvent amener les États à céder à la pression d'autres.
Et alors il y a tout le volet juridique également qui est très important dans ce cadre-là, c'est celui qui est le premier à fabriquer les lois et à pouvoir les appliquer contre les autres pays. Alors dans ce domaine, le champion toute catégorie sont les États-Unis.
Ah ben les normes comptables.
Bernard Quirin.
Oui, bien sûr, les normes comptables, mais aussi les normes sanitaires. Le projet de traité transatlantique est un modèle du genre. Dès que les Français, au moment où il s'agissait de définir le mandat de négociation de l'Union européenne, dès que les Français ont fait des réserves sur la sécurité sanitaire des aliments pour sortir du mandat, les Américains ont riposté immédiatement en bloquant un certain nombre de produits français, en servant du champagne californien au banquet d'investiture du deuxième mandat du président, etc. Non, c'est très...
Il y a un problème en plus. Ce qui se rajoute à ce que dit M. Quirin, c'est encore une fois, c'est un problème de perception. En France, on ne sait pas que 80% du marché du droit des affaires est détenu par des cabinets anglo-saxons. C'est pas simplement une photographie, et là encore une fois, je vais hors du terrain de nos chers économistes, ce n'est pas une photographie du marché en tant que tel. C'est un problème qui a un impact direct sur la perception de certaines choses. Quand il y a eu un projet de modification du système réglementaire sur les OPA en France, des critiques ont ont été formulées par ces juristes-là, expliquant qu'on était dans une expression protectionniste et que c'était pas bien. Or, ces mêmes juristes, émanant de cabinets anglo-saxons, ne font pas les critiques équivalentes aux États-Unis, qui est un pays beaucoup plus protectionniste que nous en matière d'offres publiques d'achat.
Il y a une instance qui est très consciente du problème, c'est la francophonie. Tout à fait consciente du fait que si le droit français recule dans le domaine des affaires, c'est catastrophique.
Absolument, mais c'est pas un débat. Notez-le bien, on a le plus grand mal aujourd'hui à faire comprendre ce genre de choses.
Ce serait une émission en soi, et ce sera peut-être l'occasion d'y revenir avec vous, mais géopolitique, le débat se termine pour aujourd'hui. Alors merci à nos invités.
Merci beaucoup.
Pascal
merci.
Gauchon, rédacteur en chef de la revue Conflit, qui a sorti ce numéro hors série sur la question de la guerre économique. Un numéro qu'on peut retrouver à revueconflit.com et qu'on peut commander en ligne. Donc Bernard Quirin, qui travaille au développement des entreprises et enseigne l'intelligence économique à l'université de Caen notamment, et Christian Arbulo, directeur de l'école de guerre économique, directeur associé du cabinet Spin Partners et auteur de Sabordage, comment la France détruit sa puissance. Alors demain, nous serons le 8 mars, journée internationale des femmes, et vous retrouverez Marie-France Chatin et ses invités pour évoquer les violences faites aux femmes, un fléau mondial, un coût social astronomique, une urgence. Ce sera donc le géopolitique de ce dimanche 8 mars. Et merci enfin à Nathalie Laporte qui réalise cette émission.